Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio de Mediapart. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger une rencontre inédite scellée dans ce livre Entre mes mains, une rencontre entre deux féministes majeures de part et d'autre de la Méditerranée, l'avocate algérienne Wassila Tamzali et l'historienne française Michèle Perrault signent une discussion passionnante aux éditions Odile Jacob. La tristesse est un mur entre deux jardins. On ne pouvait pas ne pas les inviter. Bonjour Wassila Tamzali.
Bonjour.
Vous êtes ancienne avocate au barreau d'Alger. Vous êtes également l'ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO. Vous avez écrit de nombreux livres, j'aimerais en citer deux, parce qu'ils racontent votre engagement sans faille et sans concession pour l'égalité, une éducation algérienne et puis Une femme en colère.
Une femme en colère, oui.
Michèle Perrault, bonjour.
Bonjour, Rachida.
Vous êtes l'une des plus grandes historiennes contemporaines françaises, spécialiste mondialement reconnue de l'histoire des femmes, mais pas seulement. Vous vous êtes également intéressée aux ouvriers ou encore aux prisons. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages importants, La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public, ou encore Le chemin des femmes. Et puis vous avez co-dirigé avec l'historien Georges Duby une monumentale histoire des femmes en Occident en 5 volumes. C'est l'un des grands défis de votre livre, dépasser l'opposition binaire et caricaturale entre les femmes du monde arabe d'un côté et les femmes de l'Occident de l'autre. Wassila Tamzali, Michèle Perrault, qu'est-ce qui vous lie ?
Ce qui nous a amené à écrire ce livre, il faut dire simplement que c'est une demande. Ce n'est pas notre initiative, mais Odile Jacob, pour aller vite, souhaitait que ce livre existe. Bien sûr, je connaissais Wassila. Nous nous étions croisés, sans vraiment nous rencontrer complètement. Et par conséquent, c'était pour moi, c'était une très belle occasion de, en effet, pouvoir discuter directement avec quelqu'un qui était de cette notoriété et engagé. D'autant plus que, on va peut-être pas en parler tellement, mais la guerre d'Algérie pour ma génération, ancienne déjà, a été très très importante. On pourrait dire que ça a été la guerre de notre génération. Vous voyez en quel sens je dis ça, bien entendu. Mon côté tout à fait hostile, bien sûr. Et par conséquent, il y avait là vraiment une belle occasion de dialogue, d'autant plus que les questions qui nous étaient posées, et que sans doute, dont ce doute on va débattre maintenant, c'était tout de même sur le féminisme. Hein, le féminisme aujourd'hui, qu'est-ce que nous pensions l'une et l'autre par rapport au féminisme d'aujourd'hui? Il faut bien voir que c'est un livre de dialogue, mais c'est un livre écrit.
Hein, et il y a ce défi que vous posez d'emblée, qui est de dépasser cette opposition entre les femmes du monde arabe qui seraient asservies et les femmes de l'Occident qui seraient libérées.
Bien sûr, c'était clair que nous voulions absolument dépasser ce binarisme réducteur, même, j'allais dire, en admettant qu'il y a des différences, hein, et que les différences sont très importantes, et qu'il faut les comprendre. Et d'ailleurs, la question de différence est universelle, d'altérité, comme dit Wassila, qui préfère à juste titre le titre d'altérité, le mot d'altérité, c'est quand même très important. Être autre et être ensemble, c'est quelque chose de difficile.
C'est évident, ce qui nous lie, c'est une temporalité, parce que Michèle et moi, on a vécu les mouvements féministes dans le même temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment des années 70, des années 80, des années 90, et surtout les années 70 qui sont les années fondatrices du féminisme. C'est là où c'est tracer les traits forts du féminisme. Par exemple, les débats entre femmes, la prise de parole, la remise en question de questions profondes comme la sexualité, par exemple. Ça, c'est au cœur du mouvement féministe. Et ça l'a été tout de suite, avec évidemment des différences. Hein, les différences du féminisme égalitariste et puis celui de la différence entre les hommes et les femmes, enfin toutes ces nuances-là, tous ces débats, c'est un peu ça qu'on partage, parce que je pense qu'on a eu les mêmes parcours. Évidemment, ce que moi j'ai tout de suite voulu capitaliser, en quelque sorte, c'est cette chance de faire un débat avec une intellectuelle française. Ce que je voulais, c'est entraîner Michel à l'intérieur de cette question et dépasser cette question pour trouver entre nos deux histoires, qui sont tout à fait différentes, évidemment, entre ces deux histoires de femmes, c'est-à-dire les femmes occidentales et les femmes du monde arabe et maghrébin, qui sont tout à fait différentes, essayer justement de réfléchir sur ce qu'elles avaient de commun pour mieux comprendre ce qu'elles avaient de différent. Sur le plan juridique, les progrès qui ont été faits en Europe sont considérables. Après, ça ne veut pas dire que c'est appliqué complètement, mais c'est considérable. Et pour nous, qui sommes les femmes des autres pays, des pays autres, c'est presque un but, c'est-à-dire arriver déjà, c'est la première étape, à la reconnaissance et à l'égalité formelle. Après, il y a encore tout un travail à faire. Et c'est ça qui m'avait intéressée en rencontrant Michel, c'est-à-dire de l'entraîner avec moi à l'intérieur de cette fabrication, au fond, de la condition des femmes dans mon pays et ailleurs, en sortant des lieux communs et des choses qu'on voyait de l'extérieur, pour avoir un vrai dialogue, voilà.
Vous êtes toutes les deux issues d'un milieu favorisé. Votre père était commerçant dans le quartier du Sentier à Paris. Le vôtre, Wassila, descend d'une riche famille d'industriels et de marchands algériens. Comment s'intéresser à la condition de toutes les femmes quand on est issue d'un milieu privilégié et que la lutte est plus évidente? Comment ne pas apparaître dans une réalité qui pourrait être déconnectée des exclus, du capitalisme, des laissés pour compte, des dominés?
J'ai presque envie de faire une petite réponse provocatrice, parce qu'il faut quand même savoir que quand les bourgeoises, alors entre guillemets, hein, se sont mobilisées pour que les femmes aient le droit à travailler, les femmes ouvrières travaillaient déjà. C'est-à-dire que les femmes d'une certaine classe étaient beaucoup plus enfermées que les femmes des paysannes ou les femmes des classes où il y avait une égalité dans le malheur. Mais évidemment, je suis pas en train de raconter que c'était une réussite, mais il faut savoir que dans un certain milieu, en tout cas moi, du milieu dans lequel je viens, il y avait des privilèges, c'est-à-dire celui de l'enseignement, celui de l'éducation, mais il y avait beaucoup de contraintes aussi. Il y avait d'énormes contraintes. Quand je parle du poids de l'islam sur les femmes, je me mets dedans, parce que moi aussi je l'ai subi. Je peux plus m'en protéger, comme disait ce cher monsieur Bourguiba. Nos femmes sont deux fois colonisées par le colonisateur et par la maison, par la famille, par le père. C'est ça qui m'a un peu qui m'a, je crois, mobilisée, c'est ce sentiment de justice un peu romantique que je prends en 62, hein, en 62. Et puis j'adore cette idée que j'ai prise à Simone de Beauvoir, c'est-à-dire qu'on peut pas être libre seul. Ça, moi, je me suis tout de suite rendu compte que la liberté pour une femme qui avait des privilèges, ça ne voulait absolument rien dire tant que les femmes ou la femme était dans l'opinion publique, dans l'imaginaire, dans les pratiques, était dominée. Donc ça servait à rien d'être libre toute seule, quoi.
Au fond, la question de la légitimité, paradoxalement, je me la suis posée davantage à propos des femmes.
Étonnant, pourquoi? Ou pas si étonnant?
Eh bien, parce que, au nom de quoi est-ce que, j'étais une femme, certes, mais parler au nom de toutes les femmes. Je suis devenue féministe dans les années 70. Pour moi, pour ma génération, après la Deuxième Guerre largement, c'était le social qui était important. Par conséquent, c'était la question sociale. C'était vraiment très très important parce que on était en France en pleine reconstruction, la classe ouvrière était montante à cette époque-là, industrialisation, développement, monde ouvrier et pauvre, hein, avec des inégalités fondamentales. Donc bourgeoise que j'étais, la bourgeoisie, je m'en fichais complètement. Donc, n'ayant pas rencontré de difficultés, je n'étais pas foncièrement féministe. Je n'ai vu que beaucoup plus tard les problèmes que ma mère, en tant que femme, avait pu avoir. D'une certaine manière, j'étais du côté des vainqueurs, c'est-à-dire du côté des hommes. Hein. Et je voulais ce qu'avaient les hommes. Ce qui me révoltait, c'est de ne pas avoir les mêmes droits. J'avais quand même cette conscience-là. Et puis, il y a eu 70, et il faut redire à quel point, Vassila en a parlé tout à l'heure, le mouvement de libération des femmes a été important. Enfin, ça a été une espèce de révolution, comme dit Françoise Héritier, la conquête du droit à l'avortement, hein, ça a été une révolution copernicienne. C'est-à-dire, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, hein, ça c'est quand même quelque chose par rapport aux millénaires dans lesquels on a vécu. Par conséquent, ça a été la porte, le pilier fondamental qui a soutenu tous les autres. Et ça, ça a été très très important. Il ne faut pas s'étonner que ce soit des gens des classes privilégiées qui commencent par parler. C'est normal. Il faut avoir les instruments du savoir. Or, on ne les a pas nécessairement quand on est justement dans des classes défavorisées. Marx était un bourgeois, Engels aussi. L'essentiel, c'est de utiliser les instruments du savoir pour construire l'égalité. Ben, c'est la même chose pour les femmes.
J'ajouterais quelque chose. C'est que en général, il n'y a qu'aux femmes féministes qu'on reproche leur origine.
Oui, voilà.
Parce qu'on veut délégitimer le féminisme.
Vous vous rappelez dans le livre qu'une parole et un geste peuvent changer une vie. Vous citez le cas d'Assia Djebar, dont le père adoré, libérateur, lui interdira d'utiliser la bicyclette et de montrer ses jambes. Comment l'impact du privé de l'intime peut bousculer les choix et les itinéraires d'une vie. Est-ce que vous, il y a eu un déclic, un événement fondateur de votre féminisme, Michel ?
Des petits coups d'épingle, le sentiment que ce que faisaient les femmes, c'était secondaire, une espèce de condescendance. Dans la société française des années 1950, universitaire surtout, il y a eu quand même une idée d'égalité, hein. Mais les femmes sont peu nombreuses et il y a l'idée de condescendance, c'est ça, voilà. La condescendance m'énervait. Je voyais pas pourquoi on était condescendant. Je voudrais par ailleurs rappeler l'importance de Simone de Beauvoir. On n'a pas encore prononcé son nom, mais enfin, elle est antérieure aux années 60. Elle a publié en 1949 « Le deuxième sexe ». C'est un livre formidable et je dois dire que c'est d'abord son exemple qui a eu pour moi de l'influence presque plus que son livre. Enfin, elle était une femme libre, hein, alors qu'elle était la génération de ma mère, pratiquement. Elle conduisait sa voiture. Elle avait des amours essentiels, les amours contingentes, c'est-à-dire une grande liberté sexuelle. Elle écrivait et elle voulait écrire. C'était véritablement un modèle lumineux, hein. Donc, j'admirais beaucoup et mes amis au lycée, etc., admiraient Simone de Beauvoir. Et puis en 49, elle publie Le deuxième sexe, livre parfois compliqué, ardu, long, avec beaucoup de références et avec des passages lumineux où elle montre comment la maternité n'est pas le seul destin des femmes, que les femmes peuvent choisir autre chose, et où elle a cette phrase magique « On ne naît pas femme ». On le devient. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et par conséquent, avant même les années 70, qui vont être les grandes années du MLF, il y avait cela. Hein. Il faut rappeler que le féminisme était là et que des voix, certes isolées, mais ô combien importantes, en parlaient.
Vous êtes érigée l'une et l'autre, de part et d'autre de la Méditerranée, en modèle, en référence. Par exemple, Michel, en tant que pionnière de l'étude des femmes, vous êtes brandie comme une icône par les nouvelles générations féministes. C'est un statut qui vous convient ou qui vous dérange ?
Ni l'un ni l'autre, il m'étonne. Vous voyez ? J'ai pas eu l'impression de faire des choses extraordinaires. J'ai vraiment eu l'impression de faire émerger, parce que j'avais une position universitaire qui me le permettait, au fond, quelque chose, voilà. Mais c'était collectif et c'était très joyeux. Hein. Ça a été un travail intense, mais ça a été un travail où tout le monde était heureux, heureuse. Il y avait des garçons, hein, il n'y a pas que des filles qui ont travaillé à tout cela. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment de recul. Curieusement, c'est maintenant. Je suis étonnée, oui, étonnée, de voir les plus jeunes qui ont l'air de me considérer comme ce que vous avez dit, une pionnière et tout ça. Moi, je sens pas ça du tout. Voilà. Peut-être parce que j'ai du mal à me voir vieillir aussi.
Vous, Sylla, vous êtes quand même une figure incontournable du féminisme en Algérie. Alors, pour certains, vous apparaissez comme une personnalité clivante.
Moi, je suis pour les séparations, les divisions, pour que naisse la vérité. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, c'est Jean Cocteau qui disait « Si vous plaisez à tout le monde, méfiez-vous, vous n'êtes plus vous-même ». Évidemment que... Évidemment que quand on parle des femmes, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en Algérie, hein, c'est clair. L'essentiel pour moi, c'est de faire plaisir aux femmes, au moins, parce que je pense qu'il n'y aura pas de mouvement s'il n'y a pas une prise de conscience aiguë de l'oppression. Et pour revenir un peu à cette opposition, entre guillemets, de principe entre Michel et moi, c'est vrai que le mouvement féministe français, à travers Michel, c'est ce que j'ai entendu en tout cas maintenant, il naît d'une individuation très, très forte et permise par l'environnement intellectuel, que ce soit par un grand professeur homme, qui n'a pas besoin d'être vraiment féministe, mais qui attache de l'importance à la personne à qui il parle déjà. Ça, c'est très important. Cette individuation, c'est quand même le cœur du féminisme. Et si je prends le mouvement, de l'autre côté, c'est plutôt un mouvement collectif, c'est plutôt des mouvements collectifs, et avec une difficulté aussi de cette individuation. Je vais essayer d'expliquer. Je pense que on confond souvent un mouvement qui vise à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et un mouvement féministe. Le mouvement féministe est vraiment basé sur une révolution personnelle. Il doit y avoir une révolution personnelle, pas seulement parce que à ce moment-là il y a beaucoup d'hommes qui seraient féministes, puisque beaucoup d'hommes aujourd'hui luttent pour l'égalité entre les droits. Mais le combat des femmes, il y a cette particularité qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire cette émancipation contre soi-même, parfois même contre soi-même, cette liberté qu'on doit prendre vis-à-vis des gens qu'on aime, je parle de la famille, et vis-à-vis des grandes traditions et de la grande culture. Alors quand on est dans un pays où tout ça c'est très douloureux, l'identité, la culture, la religion, c'est compliqué de s'émanciper de tout ça. Et pourtant, je pense que c'est pour ça que je suis très proche de Simone de Beauvoir aussi, parce que c'est elle qui dit que le féminisme c'est une idéologie de la libération. C'est pas seulement une égalité, c'est pas seulement une organisation administrative des droits.
Voyez-vous. Ce serait donc cela, voici là votre définition du féminisme, à l'heure où le concept revient en force et qu'il est brandi, y compris par l'industrie du luxe ou récupéré par le marketing, ça serait ça ?
Quoi ?
Votre définition du féminisme ?
Le féminisme, c'est une pensée politique qui aujourd'hui me sert beaucoup encore à comprendre le monde, surtout dans nos pays où la place des femmes est sans doute l'explication de la discrimination des femmes et de la place, de la hiérarchie des sexes dans nos pays, sans doute explique beaucoup la pérennité des régimes dictatoriaux. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse.
Et pour vous, Michel, quelle serait la définition du féminisme que vous nous donneriez ?
Je pense qu'au point de départ, ça a été l'égalité. Peut-être plus qu'encore que la liberté. L'égalité des droits, voilà. Avoir les mêmes droits que les hommes. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, les femmes, par exemple, ne votent que depuis 1944. C'est-à-dire qu'il y a eu la Révolution française et puis les femmes étaient quand même pas considérées comme, justement, pas comme des individus égales. Donc, conquérir le statut d'individu, c'était ne plus avoir le code civil, parce qu'il ne faut pas oublier que le code civil, c'est Napoléon, cet grand homme, c'était profondément patriarcal. Dès qu'une femme est mariée, elle perd tous ses droits. Dans le code civil. Le mari décide le nom, le lieu, l'éducation des enfants, si une femme veut travailler, il faut que le mari donne l'autorisation, etc. C'était profondément inégalitaire. Donc ça provoquait une révolte chez les femmes. Hein. Le féminisme vient de là. D'abord des individus, des femmes isolées, puis des femmes beaucoup plus unies, collectives, etc., etc. Donc, l'idée d'égalité, c'était fondamental. Bien sûr, l'idée de liberté, hein, c'est-à-dire ne pas faire de mariage arrangé, par exemple. Les femmes en France, et je pense ailleurs, sont à l'origine du mariage d'amour. Ce sont les femmes qui... il faut qu'elles soient mariées, d'accord, mais mariées avec qui elles veulent. Si c'est pour épouser l'homme que le mari, que la famille veut leur faire épouser, non. Hein. Et il y a eu véritablement une résistance croissante des femmes contre le mariage arrangé pour le mariage d'amour. Voilà. Voilà un exemple de liberté.
C'est beau, ça. Hein.
De liberté très importante. Et liberté du voyage. Quand on pense que, en France, au 19e siècle, une femme qui voyage seule, on pense que c'est une prostituée. Flora Tristan, qui est une grande féministe du 19e, passionnante, on n'a pas le temps d'en parler, s'en va pour faire une enquête en France. Elle arrive à Montpellier, elle va dans un hôtel, et à la porte de l'hôtel, il y a marqué « Interdit aux femmes seules ». C'est pas exactement comme aux États-Unis, « Interdit aux Noirs ». Hein. Il y a une comparaison à faire, d'ailleurs, entre le sort des esclaves noirs aux États-Unis et le sort des femmes en France. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les féministes françaises et d'ailleurs anglaises et autres étaient pour la lutte contre l'esclavage. Elles voyaient très bien ce que ça représentait, l'esclavage. Hein, elles n'en voulaient pas. Par conséquent, liberté, égalité. Et sororité, bien sûr.
C'est joli cette idée que les femmes inventent le mariage d'amour, je retiendrai. Oui. Moi j'ajouterai une chose. Le féminisme a donné aux femmes l'idée qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. Parce que tout ce que vous avez dit, je le ramènerai au bonheur. Et ce qui me frappe beaucoup chez les femmes, même les jeunes femmes d'aujourd'hui, hein, cette capacité de s'oublier dans les différentes tâches qu'elles veulent assumer, en particulier la maternité. Et cette idée du droit au bonheur, d'exiger le droit au bonheur, je pense que c'est un merveilleux moteur de progrès de la société, c'est-à-dire et du bonheur des autres. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre avec une mère qui a pu réaliser son bonheur, hein, n'est-ce pas, que de vivre avec une mère qui a tout abandonné de ses rêves, et etc. Donc ça, c'est très important. J'adore cette idée du mariage d'amour inventé par les femmes, c'est bien.
Dans le siège de MeToo et de la prise de parole mondiale contre les violences faites aux femmes, de nombreux collectifs féministes essaiment à travers le monde, en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Ils attirent de plus en plus de jeunes militantes. Comment vous accueillez cette relève? Est-ce que vous manifestez à leur côté, par exemple, Wassila?
Ah, moi, tout à fait, mais Michel, je pense aussi. Hein. Là, je dirais qu'elles vont beaucoup plus loin que l'on a été. Dans la mesure où elles sont vraiment porteuses d'une forme de féminisme radical qui moi m'enchante évidemment, et parce que pour caricaturer un peu la chose, nous disions il faut nous donner l'égalité parce que vous avez besoin de nous, on est intelligente, on a fait la guerre, on a libéré le pays, on élève les enfants. Nous sommes des personnes importantes, si vous voulez développer le pays, il faut nous reconnaître comme égales et nous respecter, etc., etc. Elles ne disent pas ça. Elles disent, on est libre, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous étions dans la plaidoirie, elles sont dans l'énonciation et dans la déclaration. Et ça, c'est un pas fondamental.
Oui. Oui, moi, je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Wassila. MeToo, c'est très passionnant. Hein. C'est passionnant par la... le rôle des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, on ne va pas en discuter ici, on sait qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais les femmes ont su s'emparer des réseaux sociaux. Et c'est ce qui a fait que ça a atteint des millions de femmes. Hein. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Simone de Beauvoir, quand il y avait 5000 personnes dans une manif, elle disait « c'est formidable, on est très nombreuses ». Maintenant, c'est 50 000, enfin, ça change tout. Il y a vraiment quelque chose de changé. Et la deuxième chose intéressante, c'est que dans MeToo, il y a l'idée de l'intimité. Hein. Les femmes avaient demandé ce qu'on a dit tout à l'heure, le droit à libre maternité. Là, c'est la libre sexualité. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas, hein, vous ne m'intéressez pas, je ne veux pas faire l'amour avec vous, non. Hein. Et si je dis non, c'est non. Alors que pendant beaucoup de temps, les hommes ont dit, quand une femme dit non, c'est oui. Hein. Attention. Et je trouve ça très intéressant, et je trouve que c'est jeune, éclatant, et je suis comme vous, très sensible, évidemment, aux jeunes féministes d'aujourd'hui. Et comme Vassila, je pense qu'elles vont nécessairement plus loin que nous, parce qu'il y a des choses qui ont été plus ou moins réglées, et par conséquent, les frontières se déplacent. Le fait qu'on puisse aujourd'hui revendiquer pour la libre intimité, c'est quelque chose qu'en effet, il y a 30 ans, la génération d'avant, on n'aurait pas osé faire. Hein. S'il y avait des harcèlements, on en était presque honteuse. Hein. On n'en parlait pas. On essayait de régler ça. Et puis, on n'osait pas en parler parce que c'était un petit peu honteux d'avoir été harcelée. Les femmes de maintenant, les jeunes femmes de maintenant, elles ne disent pas ça. La honte a changé de camp. Comme disait Françoise Héritier, avant de mourir, elle a vu ce mouvement et elle l'a salué comme un mouvement très important. Donc, MeToo, oui, c'est très important. Révolution, j'en suis pas sûr. Révolution, faut pas mettre le mot à toutes les sauces. C'est compliqué, les révolutions. Mais un événement majeur dans la longue marche des femmes vers leur liberté et leur égalité.
Oui, je pense quand même qu'il y a une révolution.
En vous lisant, si j'ai bien compris, vous vous réclamez chacune du féminisme universaliste, tout en vous réclamant aussi par moments du féminisme qu'on appelle intersectionnel, qui est ce féminisme qui a été théorisé par une avocate américaine en 1991 et qui sert à dire les discriminations et les oppressions simultanées que peuvent subir des personnes.
C'était pas très nouveau, hein. C'était pas très nouveau.
Parce mais que, c'est compatible d'être
non,
les deux.
Mais c'était pas très nouveau. Imagine un mouvement féministe qui soit dans n'importe quel endroit de féministe à Alger ou à Paris ou etc. et qui tienne pas compte du fait des différences sociales, des différences d'origine, des différences de race. Mais c'était un mouvement qui avait pas trouvé bien sa place parce que le féminisme, il y a deux choses dans le féminisme. Il y a quand même un côté extrêmement pragmatique et pratique qui est inscrit dans le militantisme de base. Hein, et il y a les écrits qui sont à côté. Et c'est peut-être un des territoires où les liaisons entre la recherche, les chercheuses, la réflexion, etc., et le militantisme de base a été organisé dès le départ. C'est-à-dire que les premières militantes activistes, c'était des chercheuses, c'était des femmes chercheuses qui se sont après qui ont créé des revues, qui ont écrit des articles, etc. Donc ça a tout de suite été un mouvement qui a accompagné le mouvement et je ne vois pas comment on pouvait mener une action sur le terrain sans tenir compte des diversités, par exemple.
Sans être intersectionnel.
Par exemple, exactement. Par exemple, en prenant une autre diversité, mais qui est encore plus importante chez nous, peut-être, enfin, qui est plus importante et qui est beaucoup plus révélatrice, quand nous avons mené notre travail au collectif Maghreb Égalité pour organiser la grande conférence de Pékin, évidemment, nous étions des universalistes. Et que pour nous, il n'était pas à prouver que les femmes et les hommes étaient égaux en droit et en liberté. Il s'était pas approuvé. Mais, évidemment, qu'on voulait faire un travail concret et qu'on voulait entraîner avec nous les autres femmes de nos pays réciproques. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait de ce qu'on appelait des argumentaires qui tenaient compte de tous les paramètres. Nous avons fait un travail intersectoriel en intégrant une interprétation de la religion, alors que nous savions très bien que la religion, on ne pouvait rien faire avec, mais on l'a quand même introduite dans notre travail pour montrer que c'était mal interprété. Donc, ce travail d'intersectorialité, s'il faut reprendre ce mot-là, c'est un travail de base du féminisme activiste. C'est-à-dire que quand on est dans un quartier... quand on va se déplace à la campagne avec des femmes paysannes, même si on est une universitaire, si on enseigne la sociologie à l'université, ça ne nous empêche pas de voir avec qui on est, et on ne se déplace pas si loin pour avoir le discours qu'on a. Et tout le travail que j'ai fait à l'UNESCO, ça a été cette adaptation constante aux différents milieux vers lesquels on dirigeait, on voulait être entendu. Et ça, c'est très important. La question, par exemple, du féminisme racisé en Amérique, aux États-Unis, il a une origine historique très forte, je trouve, dans la mesure où il faut savoir quand même que dans les premières batailles pour le droit de vote, alors que les féministes il y avait des femmes noires et des femmes blanches ensemble, eh bien, pour des questions pratiques, quand elles allaient rencontrer les femmes du Sud, par exemple, du Sud des États-Unis, eh bien, elles laissaient leurs camarades noirs, et que quand la question a été posée de savoir s'il fallait combattre en même temps la question de la race et la question de l'égalité des femmes, les féministes blanches, entre guillemets, les plus importantes, j'ai oublié les noms maintenant malheureusement, avaient décidé qu'il fallait faire les choses par étapes et qu'il fallait commencer par le féminisme, c'est-à-dire l'égalité de vote, et qu'ensuite on aborderait une loi qui était très très importante à l'époque pour le monde noir, c'était cette loi qui permettait le lynchage, n'est-ce pas, et que les féministes noires voulaient faire abolir en même temps que le droit de vote. Et ça a été... Il y a des raisons historiques. En France, il y a moins de raisons historiques, je trouve, aussi fortes dans la question du féminisme racisé, par exemple. Et c'est vrai que la question de la colonisation, mais ça, c'est plutôt le décolonial, oui.
Intersectionnel, absolument. Je pense que, il y a 30 ans, mettons, on croisait... Le féminisme, le féminin, tout ce que vous voudrez, le sexe, disons, et le social. Mais peut-être en France, tout au moins, pas tant de choses que ça. Ce que je trouve dans l'intersectionnalité d'aujourd'hui, c'est qu'elle est plus riche. Elle est plus riche parce que les différences, justement, se sont affirmées. Hein, et que, par conséquent... on croise davantage de choses. C'est comme si on croisait davantage de lignes et ça donne un tissu, évidemment, un tissage qui est encore plus riche. Mais moi, à mon avis, ça s'impose. Oui. Hein, et je ne comprends même pas très bien pourquoi on fait tant de crises autour de ça. Oui. Ça me paraît la raison même.
Certains estiment que c'est une dérive. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord
pas du
avec
tout.
Cela
Mais non. Je voudrais ajouter non, quelque non, chose, non, Michel, à ce que vous tout. Dites. Évidemment, oui. Aujourd'hui, les choses sont plus développées. Mais il y a une chose aussi, c'est que... Et je, dans le livre, d'ailleurs, j'évolue beaucoup. C'est que quand je réfléchis avec mon époque... J'ai tendance à passer à côté de quelque chose de très important. C'est-à-dire, pourquoi ces jeunes aujourd'hui sont là-dedans? C'est ça qui devrait nous intéresser. Et c'est vrai que si on décortique scientifiquement le sujet, on va trouver qu'il n'y a rien de très nouveau. Mais il y a quelque chose d'extrêmement nouveau. Oui. C'est-à-dire, ce mouvement s'adresse au présent. Il s'adresse vraiment au présent. Et il porte des causes présentes, du temps présent, pas du temps de notre temps, du temps ancien. Et c'est pour ça que, par exemple, concernant le décolonial, j'ai fait un chemin dans le livre, parce que j'ai confondu le décolonial avec mon décolonial à moi, qui était celui de la décolonisation. Et qu'en 62, nous étions tous des décoloniaux à Alger. On ne pensait qu'à la décolonisation. Et donc, quand je vois apparaître ce mouvement, je suis un peu jalouse, quoi. Mais pourquoi ils nous volent notre histoire? Voilà, c'est un peu un réflexe de personnes qui se sont coupées de son histoire. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que le décolonial d'aujourd'hui, c'est l'anticolonialisme. Et nous, en Algérie, en 62, on n'a pas parlé d'anticolonialisme. Parce qu'on voulait, on avait tourné la page. On voulait, comme un peu Michel me dit, on a tourné la page de la guerre d'Algérie. On est une génération qui a voulu tourner la page trop tôt, hein, sans doute. Et en tout cas, par rapport aux revendications des jeunes décoloniales aujourd'hui, je peux dire que c'est une belle leçon. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait tourner la page et ne rien dire sur le passé, et que le passé allait s'éteindre tout seul, et qu'en fait, quand il y a des choses sérieuses, il faut les prendre, il faut les dire, voilà.
Vous êtes d'accord avec Wassila, Michel ?
Oui, tout à fait d'accord. Je pense que dans l'idée de décolonial, il y a l'idée qu'une colonisation, c'est pas seulement des événements qu'on va pouvoir supprimer en tournant la page, justement, comme nous aurions voulu le faire, mais que ça imprégnait une culture, ça abrasait les cultures antérieures. En Algérie, la France est quand même restée assez longtemps. Hein, et elle voulait supprimer un peu les cultures qui étaient là. Et par conséquent, c'est très dur de retrouver ensuite ces identités enfouies. Autrement dit, la colonisation est une longue blessure. C'est une longue, longue blessure. Et il ne faut pas s'étonner qu'il faille du temps pour en sortir, en définitive. Et je pense qu'on ne l'avait pas très bien compris, ça, dans les années 62, justement, au moment de l'indépendance. On disait, nous qui étions heureux que l'Algérie soit indépendante, moi, mon petit secteur, on disait bravo, ça y est, les Algériens sont indépendants, puis ça va être formidable, ça va être un État nouveau, ils vont inventer plein de choses, etc. On a été un petit peu déçus après, hein, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on ne se rendait pas compte à quel point la colonisation pouvait être quelque chose qui agit en profondeur et par conséquent demander beaucoup de temps pour en sortir. Je crois que c'est ça, le décolonial.
Et ces nouveaux mots du décolonial, de l'antiracisme, vous les employez, racisé, par exemple. Est-ce que les réunions en non-mixité de femmes racisées vous choquent quand elles se retrouvent toutes ensemble pour croiser les injustices et les oppressions qu'elles subissent ?
Pas du tout. Dans les années 70, nous nous réunissions entre femmes.
Hein, c'est la même chose.
On se réunissait, on avait besoin de parler entre nous. Et je me souviens même, j'appartenais à un groupe féministe à l'université, on avait voté là-dessus, sur la mixité. Est-ce qu'on admet des hommes ou pas ? Moi, j'étais plutôt pour, parce que j'étais un peu plus vieille et que j'avais des étudiants dont je savais qu'ils seraient bienvenus. Mais mes camarades, mes amis, on dit, ah, non, on a besoin de parler entre nous, etc. On a voté démocratiquement. La majorité était pour, on n'est pas mixte, on parle entre nous.
D'ailleurs, je ramène une petite...
Elles ont eu raison.
Oui,
elles avaient raison.
Une petite anecdote.
Oui.
C'est que c'est Fatima Mernissi, qui est évidemment la féministe
marocaine
que tout le monde connaît. Fatima Mernissi, quand elle arrive en France, on lui demande de venir assister à une discussion féministe.
Oui.
Évidemment, il n'y a que des femmes, parce que c'était la décision qui avait été prise par les groupes de parole. On appelait ça des groupes
de parole. C'était très important.
Groupes de parole des femmes. Oui. Et donc, elle leur a dit, au bout d'une demi-heure, écoutez, non, moi, ça ne peut pas marcher, parce que je veux quitter le harem et vous me remettez dans un harem. Voilà la parole de Fatima Mernissi. Voilà, c'est juste un petit truc amusant à rappeler. Oui.
Wassila, vous dénoncez beaucoup l'oppression des femmes sous la loi coranique, ou encore la complaisance des féministes occidentales vis-à-vis de l'islamisme. Vous vous érigez aussi contre le voile, qui continue de diviser en profondeur les femmes et les féministes, ici et de l'autre côté de la Méditerranée. Vous, Michel, vous écrivez que ce bout de tissu agit comme, je cite, une frontière obsédante. Comment... Quand on est féministe, on fait pour ne pas basculer dans l'islamophobie ou en tout cas servir la haine anti-musulmane, les discours racistes. Comment, en tant que féministe, mais aussi en tant que femme, on fait pour ne pas discréditer ces femmes qui choisissent de porter le voile, Wassila ?
Il faut être très attentif et il faut savoir, d'abord, il faut savoir s'il y a un risque. Par exemple, moi, c'est ce que j'appelle, je crois que c'est dans Une femme en colère, ce que j'appelle les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'avais l'impression que mon discours, c'était un écho de discours odieux, des discours de l'extrême droite, de Madame Le Pen, etc., etc. Et puis, à ce moment-là, je me suis interrogée de savoir si je pouvais. D'ailleurs, pour reprendre un peu certaines féministes de maghrébines, enfin, que j'ai rencontrées. Et qui, devant mes discours où j'énonçais très clairement une critique de la pratique religieuses et des traditions contre les femmes, on me disait « c'est bien ce que tu dis, mais ne le dis pas devant des Européens, parce que ça va être mal interprété ». Or, moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et d'abord, parce que je ne parle pas aux Européens, je parle d'abord aux femmes qui sont concernées, c'est-à-dire qui sont les femmes de mon pays et les femmes d'à côté. Donc, je continuerai à faire la critique de ces traditions et la critique de la religion qu'on veut absolument appliquer. Et en même temps, l'important, je crois, que c'est de savoir quels sont les avantages. Est-ce qu'on a l'avantage de dire ce qui ne va pas? Et si on ne le dit pas, quels sont les désavantages? La deuxième chose, ça c'est une question vraiment, c'est un point de vue extrêmement personnel. Je pense que ce qui entretient un peu le racisme aussi, c'est peut-être de défendre des choses indéfendables. Parce que montrer aux autres, aux racistes, qu'on a un point de vue et qu'on discute, qu'on est capable de discuter, qu'on est capable de discuter sur sa société, je crois que ça fait quand même réfléchir, réfléchir ces gens-là. Mais je pense que concernant les questions, ces questions de critique, je crois que je ne m'arrêterai jamais. La question du voile, je voudrais préciser. Moi, je ne suis pas contre le voile, parce que ma grand-mère était voilée. Les voiles traditionnels, je connais. C'est mon histoire. Je suis contre les discours sur le voile. Faire du voile un instrument de libération des femmes, ça ne me gênerait pas, parce qu'après tout, tout le monde peut se dire féministe. Moi, ça ne me gêne pas. Mais en fait, dire que le voile, c'est libérateur, c'est remettre en question tout le travail de féministe qu'on a essayé de faire dans les pays maghrébins depuis 1975.
Alors, moi, je voudrais dire que je suis assez attachée à la laïcité, hein, à la laïcité, à la française. Elle me convient et je pense que elle a été libératrice pour les femmes. Parce que les religions, quelles qu'elles soient, hein, sont des systèmes d'oppression pour les femmes. Et par conséquent, attention, chacun a le droit d'avoir une religion et de la pratiquer comme il l'entend, mais un espace public sans religion me paraît libérateur. De ce point de vue, je suis favorable à la loi qui a été prise en 2001, je crois, qui dit pas de signes religieux à l'école. Moi, ça me convient très bien. Ceci étant, point final, c'est-à-dire que une mère de famille qui accompagne ses enfants dans une sortie et qui est voilée, bien sûr. Une étudiante qui vient à l'université qui veut porter le voile, bien sûr, c'est une adulte, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le voile. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'une femme voilée peut être féministe? Bien sûr que oui. Elle résiste comme elle peut. Hein. Elle fait ce qu'elle peut dans son quotidien. Et ça a toujours été comme ça. Hein. Les femmes ont fait ce qu'elles ont pu, enfin celles qui voulaient un peu plus de liberté, d'égalité, elles ont fait ce qu'elles ont pu au quotidien, des petits pas quelquefois, hein, mais qui étaient très très importants. Maintenant, c'est une chose de dire cela pour le quotidien, puis c'est une chose d'en discuter dans l'absolu en voyant quel rôle historique le voile a pu jouer.
Alors, c'est vrai qu'il y a... On peut craindre cette histoire d'islamophobe, mais il y a plus que... Je crois qu'il y a un danger qui est quand même plus grand. C'est-à-dire que on construit en ce moment tout le rapport avec le monde arabe avec cette emblème qui est la femme voilée. Et on fait peur à travers la femme voilée. On fait peur aux autres à travers la femme voilée. C'est Freud qui disait « Le racisme commence par une petite différence sexuelle ». Et c'est très fort comme idée. C'est-à-dire que voiler une femme, cacher le corps d'une femme, ça ouvre beaucoup d'imagination et de discussion autour de la sexualité telle qu'on la pratique. C'est très important. Il faut refuser que les femmes, le statut des femmes alimente cette opération qui est extrêmement agressive vis-à-vis du monde arabe et qui justifie beaucoup de politiques de destruction. Il faut vraiment le refuser. Il faut en même temps conserver cette critique sur la condition des femmes dans nos pays, refuser l'amalgame qu'on peut faire avec toutes sortes de comportements et du féminisme, parce que le féminisme, c'est une approche politique qui permet d'analyser la société. Et quand on sait que la place que tient l'oppression des femmes dans les régimes oppressifs en Algérie, je dis qu'il n'y a pas de liberté de peuple sans la liberté des femmes et qu'il n'y a pas de démocratie sans la liberté des femmes. Donc c'est très important.
On va se quitter peut-être d'abord avec c'est quoi l'urgence pour vous, les combats à mener pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes et faire en sorte que cette moitié de l'humanité à laquelle nous appartenons ne soit plus effacée, invisibilisée, écrasée.
Il faut distinguer, mettons la France, puisqu'on est en France là en ce moment, et le monde. Hein. Et quand on regarde le monde, c'est quand même impressionnant ce qui reste à faire. Tous les jours, on nous parle des femmes afghanes. C'est effrayant, les femmes afghanes qui ne peuvent plus aller à l'école, à l'université, qui sont alors obligées de remettre le voile, etc. Et bon, et puis il y aurait d'autres choses en Amérique latine où il y a beaucoup de machisme et des féminicides beaucoup plus importants que chez nous. Donc là, on se sent solidaire, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de en prendre conscience, en parler? Accueillir si l'on peut, faire ce qu'on peut. Bon, ceci ne doit pas nous cacher ce que l'on a à faire chez nous, ce qui est quand même très important.
Que doit-on faire chez nous?
Ce qu'on peut faire chez nous, je pense que le féminisme est à la fois une pratique et une pensée. Hein. Tant qu'on a des armes pour penser, pour écrire, pour parler, il faut le faire. Hein, et en n'étant pas du tout replié sur le passé, nos vieilles luttes et tout ça, mais justement en étant à l'écoute des plus jeunes, je pense qu'il y a une transmission qui peut se faire, mais dans les deux sens. Hein. Nous raconter ce qu'on a fait, après tout c'est pas inutile de dire qu'il y a eu aussi des choses autrefois, mais en étant très très attentive à ce que font les jeunes maintenant, parce que ils saisissent des choses que nous n'avons pas vécues, ils ont des solutions que nous n'avions pas, et c'est passionnant. Et il faut savoir que l'histoire n'est jamais finie, jamais. Il n'y a pas de fin de l'histoire. C'est ça qui est à la fois fascinant, quelquefois fatigant, parce que les hommes et les femmes ont sans cesse à reconstruire leur rapport. La situation change, c'est plus la même chose d'être un homme et une femme maintenant qu'il y a 30 ans. C'est plus la même chose. Donc il faut que les hommes et les femmes de maintenant, les jeunes hommes, les jeunes femmes de maintenant, réaménagent leur rapport. Et nous, eh bien, les écouter, regarder, parce que c'est passionnant. Vous savez, on fait une toute petite apparition dans l'histoire de l'humanité. Les quelques années qui nous sont données, même si on vit un peu vieille, c'est rien. Hein. Et cette chance-là, on l'a une fois, et puis après c'est fini. Par conséquent, essayons de garder cet esprit de curiosité pour vivre la seule chose qui nous est encore donnée. Les rapports entre les hommes et les femmes, c'est un chapitre passionnant de l'histoire.
C'est-à-dire que dans un pays comme, par exemple, le mien et d'autres pays, vous avez parlé de l'Afghanistan, on pourrait parler d'autres pays, il y a une urgence vraiment à arrêter, parce que à force de refuser de reconnaître aux femmes l'égalité, c'est quand même pas rien de refuser. Hein. On pense que, quand on réfléchit, c'est lourd de sens de dire qu'une femme ne peut pas être l'égal d'un homme. Et cette difficulté, cet obstacle que nous n'arrivons pas à dépasser, a conduit, dans mon pays aussi, à une déshumanisation des femmes. C'est-à-dire qu'on est passé de la discrimination simple, hein, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, mais moi je suis supérieur à toi, hein, avec l'état de crise, et pas seulement l'état de crise, mais la peur grandissante des femmes, parce que les femmes prennent conscience. Donc maintenant, on a peur des femmes. Donc on sent que on est passé de cette discrimination entre deux êtres plutôt semblables à une déshumanisation des femmes. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui en Afghanistan et dans d'autres pays, dans des cas de viol collectif, dans des cas de viol, etc., dans des moments de guerre. On se rend bien compte que le premier mépris de la femme, c'est vraiment de ne pas reconnaître qu'elle est légale, qu'elle est égale en droit et qu'elle est égale en liberté et en dignité. Et ça conduit, surtout qu'on est dans des périodes graves où il y a une perte de qualité des rapports humains, une perte des qualités. Il y a ce changement moderne dont vous parlez qui, avec ses réseaux, qui peut être le mieux et le pire de ce qui peut arriver, avec des guerres qu'on peut faire maintenant dans des petits avions, plus personne. C'est-à-dire, on est dans un monde qui est extrêmement dangereux, et dans ce monde-là, les femmes sont devenues encore plus fragiles. Et ce que je crains fort, moi, c'est ce phénomène de déshumanisation des femmes s'installe. C'est-à-dire, c'est parce que les cultures traditionnelles qui discriminaient les femmes, il y avait de la morale, il y avait des choses, si vous voulez, qui les maintenaient quand même. Aujourd'hui, on a perdu tous ces repères anciens. On n'en a pas créé de nouveaux. C'est comme disait Germaine Tillon, les femmes sont entre la République des cousins et la République des citoyens. C'est-à-dire que vous preniez par exemple l'exemple dans mon pays, dans le Maroc aussi, comme dans la Tunisie, il y a 100 ans, il y avait un contrôle des cousins, la famille contrôlée. Alors il y avait des familles qui étaient très méchantes, mais il y avait un contrôle moral, c'est-à-dire qu'on contrôlait les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus ce contrôle, il n'y a plus cette famille. Mais on ne l'a pas remplacée par une société de citoyens. Donc les femmes sont vraiment entre deux chaises. Elles sont dans la situation où elles acceptaient leurs conditions, et de l'accepter, eh bien, elles étaient moins en danger. Dans une situation où aujourd'hui, elles sont en rébellion, grosso modo, surtout les jeunes, en rébellion. Et à partir de là, elles deviennent dangereuses. Et moi, je vois plutôt leur situation s'accentuer, vous voyez.
On va se quitter sur cette note pessimiste, mais aussi cette note optimiste. Merci à toutes les deux pour cet échange stimulant, pour votre livre lumineux. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Mediapart.